La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'heure d'Esprit Libre avec aujourd'hui Routel Krief, éditorialiste à LCI, et Marc Lambron de l'Académie française que vous retrouvez chaque jour sur Radio Classique. À 7h20, nous avons de nombreux sujets ce matin, du pain sur la planche, comme on dit. Le premier me semble être la récidive du président de la République hier à Prague, qui a appelé les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches. Il a fustigé l'esprit de défaite et évoqué à nouveau l'envoi de soldats comme il l'avait fait la semaine dernière. Ça s'appelle de la constance.
Route-moi.
Ça s'appelle une forme de lanceur d'alerte, mais ça montre aussi la désunion de l'Europe, donc c'est plutôt inquiétant. Il est peut-être totalement lucide, mais en fait, ma question, c'est comme la dernière fois lorsqu'il a parlé des troupes au sol à Paris, quand on lance de telles apostrophes, il faut sécuriser un peu son discours. Et comme je m'inquiétais du fait qu'il n'ait pas réuni les partis politiques français et partagé en fait son souci ou sa lucidité avec le reste de la nation, de la même façon, je m'inquiète que le reste de l'Europe ne soit pas aussi lucide. Et du coup, ce qui finalement émerge, c'est plus les divisions de l'Europe dans le contexte qu'une Europe unie et claire. Et donc, oui, peut-être a-t-il raison, et sans doute a-t-il raison, mais est-ce qu'il a raison de le dire à haute voix et de cette façon, sinon pour tirer la couverture à lui, entre guillemets, hein, c'est un peu vulgaire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le résultat, c'est que Poutine, il entend tous les autres pays européens dire « on viendra pas, on viendra pas ». Et ça, c'est plutôt mauvais signe.
Marc Lambron.
Bon, je crois que Macron ne veut pas rester dans l'histoire comme un président munichois. Ça, il y a quand même la sculpture de son profil.
Vous dites munichois.
Munichois, si vous voulez, mais j'aime bien le CH, on peut le sonorer, on peut le chouinter.
Vous savez que tous les auditeurs vous écoutent dès que vous faites quelque chose qui s'écarte.
Tout le monde va répéter munichois aujourd'hui.
À quoi ça sert d'avoir Lambron à 7h20 si on a un anglicisme chez Abiker ou ailleurs?
Vous dites pas en quoi, vous dites en choix, n'est-ce pas?
Mais on dit Munich.
Le CH, on dit
Munich. Vous dites pas Munich.
Refermons la parenthèse sur ces affaires graves.
Ne germanisons pas la plaine, comme on chantait autrefois. Oui, je crois que Macron veut être le cornac du mammouth européen, et qu'il y a peut-être aussi une arrière-pensée intérieure, parce que l'axe, ce que j'appelle l'axe Medvedev-Bardella, il existe. Quel est le parti français qui a pactisé, qui a même contracté des emprunts auprès de la Russie? C'est bien le RN. Donc c'est aussi un fusil à tirer dans les coins. Et ne pas être Daladier, après tout, c'est un programme.
On y reviendra cette semaine à ces prises de position du président français à l'étranger. Les Américains ont d'ailleurs rappelé que Zelensky lui-même n'avait pas demandé l'envoi de soldats dans son pays. Ils ont beau jeu, les Américains, d'avoir une position un peu équilibriste par rapport aux velléités d'Emmanuel Macron.
L'idée de troupes au sol, ça veut dire, c'est pas les troupes au sol, c'est les missiles allemands, c'est plus de conseillers culturels, c'est la livraison de certains avions, etc. C'est ça que ça veut dire. C'est
des conseillers techniques, vous voulez
dire. Des formateurs, oui.
Il y en a déjà, mais plus encore.
Bah, les Américains qui, par ailleurs, vont peut-être nous lâcher. Et c'est ça le vrai problème. Oui. C'est aussi pour cela qu'Emmanuel Macron lance ce cri d'alerte.
D'où l'intérêt de suivre cette campagne américaine, parce qu'un des clivages forts qui sépare Donald Trump de Joe Biden, c'est évidemment la politique étrangère, l'engagement, le désengagement, l'isolationnisme ou au contraire les États-Unis, gendarmes, sinon du monde, au moins d'une partie de ce monde. Le Super Tuesday américain, Trump confirme dans une dizaine d'États dont le vote est acquis, Nikki Haley gagne dans le Vermont, c'est marginal, et Joe Biden fait un strike, comme j'ai pu le lire, dans une certaine presse ce matin, autrement dit, il a gagné dans tous les États. Ça va être une campagne ennuyeuse, dont le véritable enjeu sera peut-être donc d'anticiper les conséquences d'une éventuelle victoire de Trump. On peut aller aussi vite que ça, ou alors soyons prudents.
On peut anticiper, mais enfin toutes sortes d'accidents sont possibles. Moi, il y a plein de choses qui me frappent. C'est par exemple l'argent et le droit. J'ai lu cette semaine un entretien de Dominique Moisy, très intéressant dans les Échos Week-end. Il dit que le populisme de Trump s'appuie sur des masses crédules, mais le fond de sa politique, c'est de favoriser les super riches. Donc en réalité, il agirait pour ses semblables. La question du droit, c'est à géométrie variable, parce que vous avez remarqué que Trump, en ce moment, honore tout à fait tous les protocoles traditionnels des primaires, qui lui sont favorables. Mais enfin, il reste l'homme qui n'a jamais entériné, jamais accepté le résultat de l'élection de 2020. Donc, quand ça l'arrange, il fait du droit, et quand ça l'arrange, il n'en fait pas.
Est-ce qu'il acceptera sa propre victoire?
C'est un problème. Il n'a pas contesté en 2020 les résultats des États où il est arrivé en tête. C'est aussi le droit qui lui permet de se maintenir, parce que la Cour suprême, cette semaine, a statué. Et la Cour suprême, elle est tout de même plus politique que ne l'est le Conseil constitutionnel en France, puisque c'est le président qui nomme, et actuellement c'est du 6-9, hein, 6 juges républicains et 3 juges démocrates. Donc la voie est ouverte, même s'il reste encore des procès sur des affaires fiscales. Ce qui est assez inquiétant, au fond, c'est le résultat, c'est le paysage, c'est-à-dire c'est un pays clivé maintenant, c'est pas la guerre de sécession, mais au fond il y a une sorte de guerre civile larvée, où la principale victime, à mon avis, c'est la vérité. Parce que d'un côté, vous avez le président des vérités alternatives dans une époque de fake news, et celui qui pense qui fait du performatif parce qu'il le dit, ça existe. Mais de l'autre côté, vous avez les radicaux woke, et là aussi, il y a une sorte de discrimination ou de segmentation à l'envers de la vérité, selon cette vision victimaire, identitaire, qui se conclut toujours par la chasse au mâle blanc quinquagénaire.
Sauf que les radicaux woke américains, ils se tirent des balles dans le pied, ils jouent contre leur camp parce qu'ils ont d'origine, ils sont en général démocrates et donc solidaires ou supporters du candidat démocrate ou des candidats démocrates. Et là, ils risquent de faire perdre davantage de voix à Joe Biden. Ces gens qui attaquent la politique d'Israël, qui sont très solidaires des Palestiniens et qui tiennent des positions radicales, effectivement.
Alors moi, je suis très inquiète j'en veux en quelque sorte au camp démocrate parce que un peu comme Emmanuel Macron a toujours pensé que Marine Le Pen est sa meilleure adversaire parce qu'il peut la battre, le camp de Joe Biden pense que Donald Trump est le meilleur adversaire et qu'il pourra le battre. Or, les sondages montrent le contraire pour le moment, son camp est divisé, et il faut bien le reconnaître, Joe Biden a un excellent bilan, et néanmoins c'est un mauvais candidat. Et c'est un paradoxe. Et donc moi, d'une certaine façon, j'en veux à cette famille politique de ne pas avoir préparé une forme de succession, de ne pas avoir de possibilité de rechange, même si on voit monter un petit peu Kamala Harris, parce qu'il y a une forme de projection dans l'avenir. Mais le résultat, c'est qu'on va avoir deux personnes d'un certain âge, l'un en face de l'autre pour représenter les deux Amériques. Et pour nous, Européens, c'est très 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 inquiétant.
Kamala Harris, Roukel-Krieff, elle part trop tard et je ne suis pas sûr
exactement.
Que chez les élites du Parti démocrate, il ait jamais été question de la mettre en orbite présidentielle.
Exactement, mais c'est un tort. Alors je ne sais pas ce qu'elle vaut précisément. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il n'y a personne qui est en orbite, à part Joe Biden, parce que lui et ses amis ont un peu éliminé tous les autres, et ils ont considéré que Donald Trump serait leur meilleur adversaire en étant assez sûr d'eux, parce qu'ils ont un bon bilan. Mais le résultat, c'est que Donald Trump est en train de marcher inexorablement vers une victoire aux primaires républicaines, et que le jeu est loin d'être gagné. Et effectivement, il y a cette perturbation par l'aile gauche qui vient affaiblir le camp Biden, et qui donc est assez mauvais augure pour nous, Européens, parce que, dans le fond, la démocratie américaine, c'est son problème, c'est un grand pays, mais nous, on va en subir des conséquences assez graves.
Mais nous avons une course avec déambulateurs, c'est une présidentielle médicalisée.
Mais il y en a un qui déambule plus que l'autre, quand même.
Il y en a un qui déambule, ébule peut-être, entre le golf et les vacances dans le Delaware.
Oui. Enfin,
mais moi je crois que ça dit une chose quand même, quoi. Alors là, ça, on devrait élargir le débat, c'est que on ne dit jamais assez que les peuples sont comptables de leurs dirigeants. C'est-à-dire que si nous avons Trump, c'est qu'il aura été élu.
Bien sûr.
Israël, il y a Netanyahou, avec les problèmes que ça cause, c'est qu'il a été même réélu. Si dans quelques mois, nous autres Français faisons devancer la liste européenne par celle que conduit un europhobe, nous en serons comptables. Et si Marine Le Pen est élue en 2027, nous en serons comptables. Ceux qui auront voté pour elle et ceux qui ne voulant pas voter pour elle n'auront pas su l'empêcher.
Tout à fait.
Donc, il y a ça aussi.
Il faut le respecter, c'est la démocratie. C'est pour ça que je vous dis, moi, les Américains décideront ce qu'ils voudront. Mais nous, de notre point de vue, d'une certaine façon, Biden aurait dû penser à nous.
Ou alors c'est nous qui devrions penser à Trump.
Mais non, parce que nous, on peut rien faire sur Trump.
On peut anticiper et s'adapter.
Ah, c'est sûr. C'est pour ça qu'effectivement, Emmanuel Macron dit l'Europe de la défense et il faut se bouger. Mais c'est vrai que je suis un peu surprise que cette famille démocrate n'ait pas anticipé et n'ait pas pris les meilleurs moyens, même si encore une fois, Biden a un très bon bilan et notamment économique. Mais on voit là qu'avec la vague populiste, ça, à cette heure-ci dans les sondages, ça ne compte pas suffisamment.
Mais les artères peuvent faire l'élection. Un accident de santé au moment de la convention démocrate pendant l'été. Enfin, tout est
mais quel
tout est
mauvais
possible.
Génie
tout est possible.
Je vous propose d'en rester là sur le Super Tuesday et l'élection américaine qui sera longue, puisque le dénouement aura lieu en novembre prochain. On va revenir en France. La France olympique et paralympique, déplier cette affiche et jouer au jeu des sept différences ou du petit détail qui s'est caché par-ci, par-là. Cette affiche olympique, dont certains disent mais c'est pas une affiche, c'est un dessin... vous l'avez peut-être pas encore vu.
C'est une BD.
C'est une bande dessinée. Oui. Elle est pleine de petits détails. Il y en a plusieurs versions. Elle dessine le Paris olympique. Et évidemment, pas de croix sur la chapelle des Invalides.
La coupole, oui.
Pas de drapeau français, a priori.
Non.
Alors justement, on va y venir. On lui fait un 3 procès. 1, c'est pas une affiche. 2, on a enlevé la croix du dôme des Invalides. Et puis, le tricolore ne serait pas assez visible. Je vous laisse vous écharper là-dessus, mes amis.
Alors moi j'ai repéré, parce que c'est un jeu, hein, c'est un puzzle, il y a plusieurs drapeaux français sous la frige, je donne les petits indices hein, pour ceux qui vont regarder vraiment le nez collé à l'affiche, il y a sur les tribunes une cocarde, et peut-être qu'il y en a d'autres, il y a un catafalque qui sort du dôme des Invalides dans lesquels qui est enveloppé dans le drapeau, mais c'est vrai que le rouge du drapeau français est un peu rosé, bon c'est une affiche un peu surréaliste, la tour Eiffel est rose, l'arc de triomphe, on voit le métro qui traverse l'Arc de Triomphe. Bon, c'est une libre interprétation d'un Paris sport, d'un Paris olympique. Alors,
très exposition universelle dans l'esprit.
Oui, et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est plus exposition universelle complètement
elle est
que peut-être
JO. Moi, je la trouve ludique.
Mais elle peut être jolie, et en fait, moi, plus je la regarde et plus je la trouve jolie, mais c'est tout le problème. Parce qu'en fait, une affiche, c'est pas fait pour être regardée le nez collé, c'est pour avoir une forme d'élan quand on la voit de loin. Et donc, à mon avis, sur le plan de l'affiche, c'est pas ça. Sur le plan de la polémique, franchement, quelle fatigue ça
Marc
suscite.
Lambron, il y a la question de la croix sur le dôme des Invalides.
Attendez.
Effacer, canceller, c'est les racines chrétiennes de la France qu'on
alors d'abord, nous sommes,
qu'on annule quoi.
Nous sommes en France, donc ça n'ira jamais. Si l'affiche avait été haute,
ça n'ira jamais.
Ça n'allait pas non plus. Bon, moi, je me félicite qu'on évite le côté Berlin 1936. C'est-à-dire, dans ces cas-là, il y a souvent des affiches assez cocardières avec des athlètes stylisés,
en
tension, qui fait qu'on craint pour leur ménisque ou pour leur tendon d'Achille. Bon. En effet, vous parlez de bande dessinée. C'est une esthétique des cités imaginaires. Je vais pas faire le cuistre, mais si vous connaissez le Little Nemo de Winsor McCay, qui est une des premières bandes dessinées, si vous connaissez Moebius, si vous connaissez les cités obscures de Schulten et Peters, on est tout à fait dans ce registre. Bon. Alors, avec une foule de micro-détails. Trouver le Charlie. Mais maintenant, sur la croix du dôme des Invalides. D'abord, il est évident qu'on n'est pas dans du réalisme. Je vous signale aussi que dans ce dessin, on voit une rame de métro qui passe sous l'Arc de Triomphe, ce qui apparemment n'est pas le cas. Ruth parlait des couleurs roses, et il y a beaucoup, c'est très rosé, très bleuté, alors que la couleur de Paris, c'est le gris pigeon. Bon, donc, on n'est pas dans le réalisme fantastique ou magique. Alors, la liberté d'un artiste, c'est d'enlever la croix, s'il a envie d'enlever la croix. Maintenant, si on y voit une intention maligne, c'est-à-dire quelque chose de woke, le retour du petit père Combe qui chassait les moniales et les soutanes, un retour à la loi de 1905 graphique, moi je vais vous dire une chose, je crois qu'il y a une autre croix à Paris, c'est une croix qui crée des chantiers et des embouteillages.
Et que nous portons, c'est ça, chacun sa croix.
Que nous portons, qui n'arrive pas à liquider les surmulots et qui part à Tahiti. Et cette croix, elle s'appelle
Anne Hidalgo.
Aïe, 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 et c'est plus des stations de métro, c'est la station du Christ, ou les stations du Christ. Alors, c'est une affiche donc, qui ne sera pas à voir, ni à observer, mais c'est une affiche à scruter.
C'est pas une affiche.
C'est terminé. Est-ce que vous aimez le Boléro de Ravel? Oui, non.
Bah, bien sûr.
Bien sûr, Marc Lambron.
Une phrase. Vous savez que
on est en retard, c'est pas possible.
Éric Satie avait dit que la musique de Ravel acceptait la Légion d'honneur que lui avait refusée. Et ben la vraie Légion d'honneur de Ravel, c'est lorsqu'un jour à New York, passant sous un échafaudage, il a entendu un ouvrier qui sifflait son boléro. Et ça, c'était sa décoration suprême.
Et il paraît que le boléro est joué tous les quarts d'heure dans le monde. Je me méfie de ce genre de statistiques. Sur radioclassique.fr, vous pouvez nous dire si vous êtes amateur de boléro ou si vous ne supportez pas le boléro. Je sais que le boléro est souvent clivant pour les auditeurs de Radio Classique, que je vous parle du boléro, parce qu'évidemment, aujourd'hui, ça en rend sale. Boléro, d'Anne Fontaine, Routel Krief, Marc Lambron, merci. À la semaine prochaine. On est très, très, très en retard.
Bon, enfin, okay.